Le jour est levé sur la région de la capitale fédérale. L'équipe est en place. En direct du studio 11, rue Sparks à Ottawa, place au Matadici. Voici Mélanie Boissonneau.
Ah, joyeux 24 juin chez vous. Très heureuse de vous retrouver, auditeurs, auditrices. Peut-être que vous êtes en mode vacances. Enfin, la fin des classes. Peut-être que le rythme vient de ralentir un brin. Peut-être que pour vous, c'est férié. Évidemment, ça dépend de quel côté vous travaillez de la rivière des Outaouais. Mais bref, beaucoup de commentaires. Je reviens dans un instant. Je commence par vous, Luca. Livre bleu du Parti québécois. C'est pas anodin qu'on ait sorti ça hier. Et évidemment, maintenant qu'on en a pris connaissance, moins de 24 heures plus tard, il y a des chapitres qui touchent l'Outaouais au premier chef.
Oui, d'ailleurs, si vous avez le fameux livre bleu entre les mains, entre les pages 143 et 146, ainsi que la page 285, vous allez retrouver un paquet de détails là, concernant justement ce qu'on retrouve dans ce livre bleu-là, notamment la réalité de la fonction publique fédérale. On affirme que s'il y avait un État québécois, là, un pays qui était créé, il y a seulement un peu plus de 17 % des fonctionnaires ou de la totalité des organismes fédéraux qui nécessiteraient la création d'une équivalence au Québec.
Bref, on arriverait à recycler seulement 17 % de ces fonctionnaires dans une fonction publique québécoise.
Si possible, il y a également la réalité des ponts. Les ponts sont de juridiction fédérale, les ponts interprovinciaux. De quelle façon on gérait ça? Les immeubles fédéraux également que l'on retrouve à
Gatineau. Il y en a beaucoup,
Gatineau,
hein? 500 quelques.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, là, on parle de 350 bâtiments, 547 biens immobiliers. Et donc, de quelle façon tout ça serait réparti? Il y a également la CCN, qui est un important propriétaire terrien. L'avenir du parc de la Gatineau, qui est de juridiction fédérale, mais c'est au Québec. Mm-hmm. Donc, voilà, il y aura un impact quand même assez important sur la région de l'Outaouais. Notre collègue Estelle Côté-Sroca viendra justement nous en parler au prochain bulletin. C'est à 8h30.
Ah oui, on y sera. Très heureuse de vous lire, auditeurs, auditrices, justement sur ce 24 juin, fête nationale pour le Québec, parce que ça a été voté. Sinon, Saint-Jean-Baptiste, évidemment, le patron des francophones, mais à l'époque, on avait dit des Canadiens français, n'est-ce pas? Donc, tous les francophones hors Québec. Et là, donc, commentaire, est-ce qu'on pourrait arrêter d'associer la fête de la Saint-Jean avec le Parti québécois? Je suis fière d'être québécoise et fière de la Saint-Jean et fédéraliste en même temps. Ce n'est pas un contresens. Je vous entends bien et je pense que vous n'êtes pas seul dans la région. Autre commentaire. Moi, j'aime la Saint-Jean. Je viens de Chibougamau. J'ai toujours célébré, maintenant un peu moins. Le message nationaliste, indépendantiste des artistes me fait moins apprécier la Saint-Jean. Est-ce qu'on peut peut-être être moins politique et plus nationaliste? Oui, ça aussi, on l'a relevé à certains moments. C'est impressionnant de vous entendre toute l'équipe ensemble ce matin. Merci et une superbe fête nationale des Québécois. Merci Rachel, très belle chronique ce matin en lien avec ce que vous racontiez à 6h45. J'ai beaucoup aimé votre réflexion sur on parlait de ce qui s'est passé cette Saint-Jean-Baptiste ou fête nationale dans le Vieux Hall. Elle dit « Je suis québéco-franco-ontarienne ». Alors, ça m'a parlé beaucoup. Autre commentaire, j'ai entendu au Culturel mentionner le commentaire bien triste concernant les gens d'Ottawa qui n'étaient pas les bienvenus au spectacle de la Saint-Jean. C'était un commentaire des louanges. Ça aussi, c'était dans votre chronique de 6h45, Rachel. Commentaire triste et non inclusif, oui, à n'en pas douter. Veut-on créer encore plus de solitude des franco-ontariens? Je suis québécoise et j'habite en Ontario. Je trouve ça triste et me questionne sur le mandat des médias. On ne faisait que rapporter, évidemment, ce qui s'était passé là-bas. Si vous avez d'autres réflexions, dans un sens comme dans l'autre, ça va nous faire plaisir de vous lire ce matin, en ce 24 juin. Et puis, Mario, sur l'autoroute Guy Lafleur?
La fidèle auditrice Caroline qui m'a envoyé un message comme quoi elle avait vu ce morceau de bois en travers des voies là, sur l'autoroute Guy Lafleur, direction est, donc vers Montréal. Elle a dit « Attention, j'ai plutôt voulu dire 3 à 4 kilomètres avant d'arriver à Montebello. Elle a tenté de joindre le 511 Transport Québec, mais ça l'amenait au 511 ministère des Transports de l'Ontario. Alors, en tout cas, je vous préviens, madame, monsieur, 3-4 kilomètres en direction est sur l'autoroute Guy Lafleur. Avant Montebello, il y aurait ce morceau de bois. Par ailleurs, ici, dans le secteur plus urbain de Gatineau, sur les voies les plus empruntées pour l'aller en matinée, là, ça va très bien. 4-17 depuis Canada vers le centre-ville, de Greenbank Pinecrest à Parkdale plus lent, sens inverse 174 jusqu'à la sortie avenue Manoury-Nicolas. Il y a un camion aspirateur qui s'attarde à nettoyer des débris dans la voie droite du chemin Walkley direction ouest et ça fait ralentir. Là, c'est entre la 417 et le chemin Sheffield. Et pour terminer, la météo plein soleil, ça deviendra alternance soleil-nuage en après-midi avec un peu de vent, maximum 26 degrés, humidex 29. Au thermomètre, maintenant, 17 degrés.
Ce qui est un très beau scénario. Ça n'a pas toujours été comme ça, les 24 juin, là, okay, mais c'est parfait pour les célébrations. D'ailleurs, parlant de moment le fun, oui, on l'espère, mais surtout moment hommage, on va ressasser l'œuvre de Serge Fiori en fin d'émission. Et dans quelques minutes, Stéphanie Plante, conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, va venir nous parler de comment elle fête le 24 juin. Un 24 juin aussi qui est un peu particulier parce que elle est des origines suisses. Et puis, à la FIFA, au soccer, il y a un certain match cet après-midi à 15h entre le Canada et la Suisse. Pour qui va-t-elle prendre? La réponse dans quelques minutes.
La ruelle qui m'attend, moi je fais mon scénario dans un trapping avant, à travers les poubelles. C'est le party, c'est la nuit et c'est un bon départ. Le bloc écrit action et la musique démarre. Plongée, je remarque un mouvement, un gros matou perché, c'est un vrai monument. Je connais personne ici, toi gamin tu t'appelles. Vu la grosseur qu'a t'or, m'a appelé colonel. Il me dit fiston, toi qui a l'air si mignon, me ferait débarquer dans la réalité. Ouvre bien tes oreilles, je le dirai pas deux fois. Ici c'est pas pareil, c'est moi qui fais la loi. Encore des couilles au cul, je m'en suis aperçu. Encore des griffes aux pattes, ben ça m'éteint. Moi j'ai pas eu cette chance, il me reste plus qu'une seule course. Mais tu peux me faire confiance, je suis toujours dans la course. On m'a ôté mes griffes, mais je sais bricoler. J'ai mis une lame de canif, regarde comment elle est bien droite. Au bout de ma patte, elle fait dans le quartier office de justice.
Ah, les colocs et Belzébuth, parce que des spectacles de la Saint-Jean, il y en a encore beaucoup ce soir. On a commencé hier, mais comme un peu partout, on a des festivités, des fois qui commencent le 23, puis sinon le 24.
Effectivement, puis il y aura l'album Dehors Novembre. On va s'en reparler dans les prochaines secondes. Mais je veux saluer d'ailleurs d'abord les gens qui se sont couchés tard hier, particulièrement ceux qui étaient dans le secteur d'Elmer, parce que quand moi je suis revenue après le spectacle des Louanges, à 23h50, j'ouvre ma portière de voiture et j'entends ceci.
Faisons l'amour sous le ciel, à briller par un drap d'étoiles. C'est toi le sens, tu es trop belle. Aimons-nous jusqu'au soleil. Faisons l'amour sous le ciel, à briller par un drap d'étoiles. C'est toi le sens.
Imaginez des bruits de foule qui scandent la chanson Adam et Ève avec un qui n'avait pas terminé. Et ça m'est passé par l'esprit, Mélanie, de me rendre jusqu'au Parc des Cèdres.
Oh, pour vrai?
Mais j'ai été raisonnable. J'ai simplement ouvert les fenêtres et j'ai écouté la fin du spectacle qui s'est terminé à minuit 15.
Minuit 15?
Oui, je pense qu'on on avait un petit passe-droit au niveau du règlement municipal
oui,
pour
Cain.
Oui, parce que bon, c'est la tournée d'adieu. C'est le soir de la Saint-Jean-Baptiste. Donc oui, on a fait les choses
mais
en grand.
Puis j'entendais,
ça semblait vraiment être un très, très bon spectacle. Donc, salut les gens qui avaient choisi d'aller dans le secteur d'Elmer, donc pour l'Outaouais, en fait, bien sûr, qui se poursuit encore ce soir. D'ailleurs, il y aura le duo féminin franco-ontarien qui vient de lancer un nouvel album, Sugar Crush, qui va être là. Il y aura également... c'est une soirée très... Justement, ce qu'on disait sur la Place Laval qui manquait un peu le côté inclusif Canadiens francophones. Du côté de l'Outaouais, en fait, on est vraiment là-dedans, au contraire, parce que, bon, il y a un aspect très québécois à Salbarbe aussi, mais c'est quand même... Des gens
Acadien,
qui se sont mis, c'est
avec
ça.
De la musique cajun.
Exact. Donc, c'est des artistes qui avaient quand même une carrière au Québec et qui ont décidé de renouer avec leur origine acadienne en se mettant ensemble, en faisant de la musique. Et le projet a tellement bien fonctionné. C'est rendu un groupe qui joue un petit peu partout. Donc, on peut écouter un extrait d'une des chansons qui nous les a fait connaître en tant que groupe parce qu'on s'entend qu'on connaissait les Jean-François Brault, les
Brault,
Jonathan
oui,
Éloi Pinchot et tout ça. Là.
Il y avait longtemps que j'avais baptisé mon Dieu de l'eau salée.
Longtemps,
longtemps, longtemps. danser avec toi, bébé.
Évidemment, il y a aussi des activités pour les enfants. Le retour des manèges est très apprécié à l'Outaouais, en fait. Il y a toujours les structures gonflables. Il y a les fous volants aussi, un spectacle de plongeon en hauteur avec notamment Lisanne Richard qu'on avait vu à Big Brother Célébrité, qui fait partie de cette troupe-là, donc qui saute de plus en plus haut. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est pas des sauts olympiens, là. On dirait que le but, c'est d'éclabousser le plus possible. Alors, il doit avoir une technique pour pas se faire mal, parce que des fois, on fait comme « Ouh là là, ça semble... » C'est un peu clownesque comme spectacle aussi. C'est présenté plusieurs fois par jour quand même à l'Outaouais, en fait. Donc, vous avez l'occasion de les voir. Il y a également le magicien Éric Leclerc qui va être sur place. Lady Beats aussi. Duo de DJ avec notamment Abeille Gélina et Mélissa Lavergne. Il y a Chloé Leclerc qui va être là à compter de 18h30. Et du côté de la rue Laval, on a également la petite Saint-Jean, 12e année qu'on fait cette Saint-Jean un peu alternative, un peu marginale, un peu punk. Donc, sur la rue Laval, là où se trouvait hier le spectacle officiel de la Saint-Jean-Baptiste, on ouvre le site à 18h. Il y a Margaret Tracteur qui va être là à 19h30. Ensuite, à 20h30, l'intégrale de l'album Dehors Novembre par Vander et ses invités. Donc, Vander, c'est le bassiste des Colocs qui avait été le collaborateur principal de Dédé Fortin au moment d'écrire l'album Dehors Novembre. Donc, c'est pas simplement un spectacle hommage, c'est quand même quelqu'un qui était aux premières loges de la création de cet album-là et de l'esprit de Dédé Fortin aussi qui a été tellement marquant justement pour le Québec et pour la culture francophone. Les Colocs étaient justement un groupe qui était, oui, très nationaliste, évidemment, très séparatiste. On sait ce que ça fait 1995, entre autres sur Dédé Fortin, mais il y avait aussi un aspect très inclusif dans la musique des Colocs. Donc,
Français,
on va revivre ça. Exactement, on va revivre ça aussi. Et ce soir, eux, c'est à compter de 20h30. Et ensuite, il y aura les Planet Smashers à 22h. Et là, je me disais, est-ce que c'est une faute d'orthographe ou un gros hommage? En regardant l'affiche et en m'informant un petit peu plus, en lisant un petit peu plus loin les petits caractères, en fait, c'est The Planet Smashers, qui est un groupe de Montréal qui chante en anglais un petit peu partout dans le monde, une espèce de ska-punk new wave qui fait leur renommée depuis 25 ans. Mais ils ont traduit une heure de matériel. Donc, c'est vraiment... C'est pas The Planet Smashers, c'est Les Planètes, en français, Smashers, qui vont nous offrir donc cette nouvelle version de leur chanson. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait par le passé, mais il y a longtemps. Donc, c'est quand même une proposition assez originale qui va se passer ce soir dans le Vieux Hall. Alors, je sais pas de quel côté vous êtes, mais justement, il y a ce côté l'Outaouais, en fait, où il y a le côté aussi programmation franco-canadienne. Mm-hmm. Il y a des... puis, on parlait de cette identité, justement, québécoise, franco-ontarienne, que beaucoup de gens vivent ici dans la région. Et c'est un peu le cas, notamment, de Marie-Soleil de Sugar Crush, qui est une Québécoise d'origine, mais établie à Ottawa, avec Joannie Charon, qui, elle, est une franco-ontarienne qui a grandi, justement, dans la région d'Ottawa. Donc, il y a cette sensibilité-là qui va être là, je pense. Moi, j'ai hésité à mettre hier mon chandail du Congrès mondial acadien parce qu'il est bleu, bleu Saint-Jean. Mais en même temps, je me disais, ah oui, mais là, moi, c'est mon occasion aussi de ressortir mon côté très québécois aussi, qui est quand même un aspect important également, mais le fait d'avoir travaillé beaucoup en Ontario, ben ça ouvre un peu les œillères. Donc peut-être c'est ça qui nous manque dans nos Saint-Jean-Baptiste, dans certains, vous parliez un peu de la façon
les
dont
louanges,
on présente,
ou, oui.
En fait, la façon dont on explique ça aux artistes qui viennent aussi, qui sont habitués peut-être de jouer à Montréal ou à Québec, où la situation est quand même un peu différente. Mais donc, oui, il y a encore des belles propositions ce soir, et je vous propose justement, parce que notre prochaine invitée, vous allez voir, il y a peut-être un petit lien à faire, mais d'y aller avec les franco-ontariennes de Sugar Crush qui viennent de lancer l'album L'amour sur le Highway, qui seront à l'Outaouais en fait ce soir.
L'amour sur le Highway, soleil se couche sur les vallées, on s'est trouvé sans chercher, puis là, faut juste se laisser aller. Si la route est longue, jaser, je peux bien m'arrêter pour t'embrasser. Toi et puis moi, on fait rien de moitié. L'amour sur le Highway.
Eh oui, parce que dans la région, ça se peut être à la fois québécoise, franco-ontarienne et des fois même suisse. Et c'est le cas de Stéphanie Plante, conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier à Ottawa, qui est dans nos studios. Stéphanie Plante, bonjour.
Bonjour et bonne Saint-Jean-Baptiste.
Bien, merci. Vous aussi, d'ailleurs, avez-vous des plans aujourd'hui pour souligner ça?
Il y a un petit match de soccer, je pense, qui se passe aujourd'hui à Vanier. On a un petit watch party. On attend à peu près 200 personnes. Oui, ben, j'ai une rencontre du conseil aujourd'hui à 10h. Mm-hmm. Alors après ça, je m'en vais à Vanier pour notre watch party. On a sur le chemin Montréal et Marié. Alors, j'ai vraiment hâte. C'est en collaboration avec l'ambassade de la Suisse. Mm-hmm. Et si les gens appuient le blanc et le rouge, que ce soit la Suisse ou le Canada, je vous invite. Oui, je vous invite à Vanier à 15h.
Et c'est ça, je ne m'étais pas rendu compte que vous aviez des origines suisses.
Oui.
Vous allez prendre pour qui cet après-midi?
Ben, la Suisse, c'est toujours un pays neutre. Ah, alors, je vais dire le blanc et le rouge. mais évidemment, je porte le maillot du Canada parce que je veux évidemment encourager le Canada. Je trouve que les gars, comme les filles, font vraiment une bonne job maintenant à la Coupe mondiale et je veux vraiment qu'ils passent au prochain stage. Alors, go Canada, go! Mais si la Suisse gagne, là, je ne vais pas pleurer non plus. On va avoir des chocolats suisses sur place. Alors,
Oui, parce que vous êtes allé recruter un petit peu d'aide du côté de l'ambassade suisse.
Oui, j'ai écrit... Quand j'ai remarqué que le match était le 24 juin, les deux pays ont français comme langue officielle, je me suis dit... Ah, et tu sais, ma mère est suisse, alors j'ai dit « wow, là, c'est vraiment, c'est plus fort que moi ». Alors, j'ai écrit une lettre très formelle avec un « veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments », tu sais, avec
tout le décorum. Oui.
Et puis, oui, c'est eux, ils financent l'écran qu'on va avoir à Vanier. Ils vont apporter du swag, du chocolat suisse et nous, on prend soin d'autres choses aussi, mais on veut vraiment que ça soit un événement inclusif. On veut, même si t'es pas fan de soccer, tu veux juste voir comment se passe un événement à plein air, vous pouvez venir. Et qu'est-ce qui est bien aussi, c'est moi, j'ai une grande communauté de diaspora qui s'installe à Vanier, des gens de Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun, etc. Et puis, je veux vraiment essayer de chercher ces gens-là parce que Vanier, peut-être, il y a un historique un peu beaucoup hockey, des Franco-Ontariens. Et c'est bien, ces gens sont encore là, mais je veux qu'ils voient aussi des sports, qu'eux, ils participent beaucoup au soccer, eux, ils participent beaucoup au basket. Et je veux vraiment les inclure dans la conversation.
Oui, et je suis en train de me dire que on aurait peut-être dû vous mettre en charge de la diffusion de certains matchs de hockey du côté de Gatineau parce qu'on n'a pas réussi. Mais vous avez réussi donc à organiser cet après-midi, c'est à 15h, je le rappelle, le match. Pour vous, le 24 juin, puis là maintenant, sachant qu'une maman suisse au Québec, mais en même temps beaucoup scolarisée en Ontario, franco-ontarienne et de par justement le fait que vous habitez à Ottawa, le 24 juin, ça a quelle importance pour vous?
C'est très important. Je pense souvent, tu sais, moi j'ai pu être scolarisée en français à Windsor, qui est quand même assez sud dans l'Ontario, à cause des gens comme Elisabeth Bruyère. On a vu les parents en Colombie-Britannique ont dû aller à la Cour suprême pour avoir des écoles en français en 2023 quand même, en Colombie-Britannique. Alors, je pense souvent aux communautés minoritaires partout un peu au Canada. Je pense pas les gens réalisent qu'il y a des communautés francophones minoritaires un peu partout et qu'il faut absolument valoriser ces communautés, les aider, les financer comme il faut. Alors, tu sais, mes pensées sont toujours avec eux, avec la bataille qu'on mène toujours, encore aujourd'hui. Mais, tu sais, on est vraiment inspirés par le Québec. Tu sais, quand je regarde les célébrations que vous avez faites hier soir, je me dis, nous, on peut faire la même chose aussi.
Oui. Et je sais que vous aimez particulièrement les Cowboys fringants. Et vous résumez bien la chose. Je pense que pour certains Québécois qui ne sont pas dans la région, c'est difficile de comprendre qu'un Franco-Ontarien ou une Franco-Ontarienne vibre aussi à cette musique-là. Il y a quelque chose qui devient universel.
J'ai écouté l'Amérique qui pleure en venant ici.
Ah, c'est vrai. Donc, vous avez votre liste d'écoute. La playlist du 24 juin, Stéphanie Plante, elle a quoi, par exemple, justement, à écouter le 24 juin?
Mais c'est ça que j'adore parce que, tu sais, au conseil, moi, je peux dire aux gens, écoutez Ariane Moffat, Cœur de pirate, Charlotte Cardin, même des gens comme Charles Trenet, comme, il faut absolument... C'est pas juste Céline Dion qui chante en français. Oui. Il y a vraiment des gens qui chantent. Ils chantent de l'histoire, non seulement du Québec, mais du Canada. Ils font ça d'une façon exceptionnelle. Quand j'ai vu, je pense que c'est Jean-François Posé qui est maintenant comme chef scientifique du Québec, je me suis dit, ça c'est un... Ça,
c'est pas Jean-François Posé, mais c'est Jérôme Dupont.
Oui,
mais les deux font partie des Cowboys,
C'est ça, excuse-moi. Je me suis dit, parce qu'on a tellement de désinformation et c'est quelqu'un avec qui les jeunes vont dire, ça c'est un expert, un scientifique, je vais l'écouter. Alors, je trouve que c'est magnifique comment vous valorisez non seulement les artistes, mais vous les mettez sur le premier plan ici au Québec et je pense qu'on devrait faire la même chose.
Oui, je pourrais dire, du côté de l'Ontario, pour avoir longtemps couvert la culture, il faudrait commencer par un ministère de la culture, parce que souvent, la culture est pelletée dans le tourisme. Mm-hmm. Oui, c'est un incroyable moteur économique, mais c'est plus que ça. Stéphanie Plante, bonne Saint-Jean, bon match cet après-midi.
Merci beaucoup.
Stéphanie Plante, qui est conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier à Ottawa, qui était dans nos studios. De votre côté, Mario?
Queensway au ralenti encore en provenance de Kanata, direction centre-ville, surtout la portion entre Green Bank, Pinecrest et Parkdale, alors qu'en sens inverse aussi, il y a un peu de lenteur entre la 174 et la sortie avenue Marne-Rue-Nicolas. Sur la 174 à Orléans, légère chute de vitesse là, dans le secteur de Jeanne d'Arc et par ailleurs les ponts interprovinciaux, rien de particulier à signaler à Gatineau sur les voies les plus empruntées pour l'aller au boulot, du moins le matin, là, ça semble vraiment très, très bien.
L'actualité des dernières heures et les sujets du jour qui feront jaser. Place à vos nouvelles d'ici avec Lucas Jacques.
8h30, Lucas, à la lumière des commentaires d'auditeurs, d'auditrices qu'on a reçus depuis le début de l'émission, je peux vous dire que le sujet va faire jaser et peut-être agace un tantinet. Le Parti québécois qui sort ce livre bleu la veille du 24 juin, alors qu'on voudrait peut-être juste célébrer cette belle langue qu'on partage tous, ça fait tiquer.
Oui, absolument, Mélanie, parce que si le Québec devenait souverain, plusieurs changements toucheraient la région de l'Outaouais, selon ce livre bleu du Parti québécois qui a été dévoilé hier. On fait le point avec Estelle Côté. Sroka. Estelle, le chef péquiste fait le pari de la transparence et réitère que des fonctionnaires fédéraux perdraient leur emploi.
Oui, le Parti québécois veut mettre fin au dédoublement administratif. La formation politique est d'avis que la majorité des responsabilités du gouvernement fédéral pourraient être assumées par l'État québécois. Selon le Livre bleu, seulement 17 % des organismes fédéraux devraient éventuellement être remplacés par un organisme équivalent, organisme québécois. Il est donc clair pour le PQ qu'un Québec indépendant ne pourra pas réembaucher tous les fonctionnaires fédéraux qui résident au Québec. Voici le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon.
Sur les fonctionnaires fédéraux, on explique essentiellement que le but de l'opération, c'est d'enlever un gouvernement de trop qui dédouble ce qu'on fait, puis on espère libérer 13 à 16 milliards de dollars en mettant fin à trop de bureaucratie et trop de dédoublement. Ça bloque aussi plusieurs projets d'infrastructure ou de logement d'avoir tous ces paliers qui ont chacun leur réglementation.
Le plus gros syndicat de fonctionnaires fédéraux n'a pas réagi au dépôt de ce livre bleu. Toutefois, par le passé, l'Alliance de la fonction publique du Canada avait dénoncé cette proposition du chef péquiste en indiquant notamment qu'il y aurait certainement des répercussions sur les services offerts à la population advenant un tel scénario.
Et Estelle, qu'adviendrait-il des immeubles fédéraux qui sont très nombreux en Outaouais?
Eh bien, le Parti québécois reconnaît que ces édifices ont été payés par tous les Canadiens. Certains pourraient donc être rachetés par Québec. D'autres, comme le Centre de préservation de bibliothèques et archives nationales Canada, qui est situé à Gatineau, pourraient faire l'objet d'ententes particulières selon le Livre bleu. Par exemple, le gouvernement canadien pourrait devenir locataire. Une autre solution qui est envisagée serait d'accorder un statut diplomatique à ces terrains sur lesquels se trouvent ces édifices. Et pour ce qui est de la Commission de la capitale nationale, au lendemain de l'indépendance du Québec, eh bien, elle n'aurait plus juridiction en sol québécois et ses biens immobiliers feraient partie du patrimoine québécois.
Assurément, il y aura d'autres réactions aujourd'hui dans la région. Estelle Côté-Sroka, merci beaucoup.
Au revoir.
Maintenant, parlant justement de la commission de la capitale nationale, le conseil d'administration de la CCN donne son aval à Services publics et Approvisionnement Canada quant à l'utilisation du sol et au design du futur pont dans l'Est qui doit relier la Montée-Paiement à Gatineau à la promenade de l'aviation à Ottawa. La présidente du conseil d'administration de la CCN, Maryse Gaudreau, en a fait l'annoncière. Il s'agit d'une étape de planification et de conception pour la nouvelle infrastructure qui doit voir le jour dans la région. Cette planification va fournir des lignes directrices pour les concepts du futur pont qui doit notamment passer par l'île Kettle. Et parlant de transport, il y a du nouveau dans le dossier de l'ancien train-vapeur Old Chelsea-Wakefield qui a cessé ses activités il y a 15 ans jour pour jour. La Ville de Gatineau lancera d'ici l'automne un processus d'appel au marché afin d'identifier des acquéreurs pour les deux locomotives dont elle est toujours propriétaire. Elles sont à l'arrêt depuis 2011, date à laquelle le service du train-vapeur a pris fin après des pluies diluviennes qui ont causé des dommages importants à la voie ferrée. En 2023, les élus avaient demandé aux fonctionnaires d'étudier des options pour l'avenir des locomotives. Un déménagement au parc écologique de la ferme Dalton était notamment envisagé. Le conseiller actuel du district de la Rivière-Blanche, Jean Lessard, se trouvait à la table du conseil municipal lors de ces discussions. Il est heureux de voir le dossier avancer.
C'est sûr qu'on veut voir la suite de ce projet-là, le voir, ça va être quoi qui va revenir, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer.
pour aller en offre là, pour voir qu'est-ce qu'on fait. On ne peut pas la garder dans un garage, comme on dit. Il faut l'exposer, mais ça prend des partenaires aussi de ce côté-là là, pour la mettre en visibilité. Là. Des fois, il y a des citoyens dans des événements, surtout au parc de la Ferme d'Automne. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Puis j'explique pourquoi que nous, l'organisme, a décidé de ne pas la prendre.
Entre 1992 et 2011, le train a accueilli près d'un million de visiteurs. Les retombées économiques étaient évaluées à l'époque à 10 millions de dollars par année. Enfin, il y a à Gatineau, les états financiers présentés hier notent que l'équilibre budgétaire est atteint en 2025, mais que la ville devra tout de même procéder à des réductions. Le surplus s'élève à plus de 16,7 millions de dollars, mais ce montant n'atteint pas les objectifs d'épargne fixés par la ville pour 2025. La ville a de moins en moins d'épargne. On parle ici là, d'argent de son bas de laine, qui est de 73 millions de dollars, alors qu'idéalement, selon la ville, il serait de 112 millions de dollars. L'argent qui sert aux imprévus, mais également à financer du logement abordable, de l'aide à l'itinérance, aménager des parcs. La mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, souligne que la situation financière précaire forcera la ville à prendre des décisions.
On sait qu'on vit une situation financière qui est difficile. Hein? On en a parlé souvent, mais notamment dans le cadre du budget. L'année passée, on a dû faire un certain nombre d'annonces, des coupures, puis clairement, il va devoir en avoir d'autres aussi. Là. On a un déficit structurel. On s'y attaque. Pour ça, il faut être capable de réduire nos dépenses d'opération, là, je dirais. Et c'est tout le travail qu'on est en train de mener avec le comité exécutif parce qu'on est déjà, évidemment, depuis plusieurs mois dans l'élaboration du budget 2027.
Maude Marquis-Bissonnette n'a pas précisé où la ville de Gatineau allait couper ni si elle allait augmenter les taxes foncières.
Et maintenant, place au sport, au Matin d'ici.
On en parlait à l'instant avec la conseillère Stéphanie Plante. Il paraît qu'il y a un match de soccer cet après-midi.
Wow, un match qui risque peut-être qui d'intéresser les gens. Ouais, ben, en fait, il y en a six, Mélanie, qui auront lieu
jour,
aujourd'hui.
Hein, c'est la farandole.
Ben, oui, vraiment. Pour les amateurs du ballon rond, là, ils sont bien servis. Et donc, aujourd'hui, dernier match du Canada en phase de groupe. Les représentants de l'Unifolier vont affronter la Suisse. Un match qui est présenté à Vancouver. Et là, je regarde le classement pour le groupe B, dans lequel le Canada se trouve avec justement la Suisse, la Bosnie et le Qatar. Le Canada, premier au classement, donc avec autant de points que la Suisse. Chaque équipe a une victoire et une nulle. Mais pour ce qui est des buts pour, avec cette victoire convaincante contre le Qatar, le Canada se retrouve en première position. Donc voilà, et il y a Alphonso Davies qui devrait effectuer un retour sur le terrain cet après-midi. Et le sélectionneur du Canada, Jesse Marsh, a indiqué hier que Davies ne serait pas titulaire, mais qu'il devrait entrer en jeu au cours du match. Hier, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer un but lors de 6 Coupes du monde. Le Portugal qui a défait l'Ouzbékistan 5-0. Il y a l'Angleterre qui a dominé au chapitre de la possession du ballon, mais qui a dû se contenter d'un verdict nul de 0-0 contre le Ghana. La Croatie est demeurée en vie en arrachant une victoire de 1-0 au Panama, un match qui était présenté à Toronto. Et puis, il y a Daniel Munoz qui a inscrit le seul but du match pour aider la Colombie à vaincre la République démocratique du Congo 1-0 et se qualifier pour la prochaine phase. Donc, voilà pour ce qui est du soccer. Pour ce qui est du hockey, les sénateurs d'Ottawa ont obtenu William Eklund des Sharks de San Jose hier contre le choix de premier tour qui avait été obtenu dans l'échange de Brady Tkachuk, le 9e choix au total au prochain repêchage. William Eklund qui a récolté 53 points, dont 15 buts en 78 matchs la saison dernière avec les Sharks, lui qui en était à sa troisième saison complète dans la LNH. Les sénateurs qui ont également mis la main sur deux espoirs, les attaquants Kasper Altununen et Brandon Svoboda, âgé de 21 ans. Il y a eu d'autres échanges. Capitals de Washington qui ont acquis l'attaquant Jordan Kyrou des Blues de Saint-Louis contre les attaquants Connor McMichael et Milton Gastrin et le 16e choix au total au prochain repêchage. Enfin, les Sabres de Buffalo ont échangé le défenseur Bowen Byram et l'attaquant Jordan Greenway aux Blackhawks de Chicago. En retour, ils ont mis la main sur les 4e et 45e choix du prochain repêchage en plus du défenseur québécois Louis Crevier. Là, la question à savoir, c'est est-ce que les sénateurs vont encore bouger? Est-ce que le Canadien de Montréal va procéder à des échanges d'ici à ce repêchage-là? En plus de la Coupe du monde, il y aura beaucoup d'intérêt du côté de la Ligue nationale, Mélanie.
Oui, oui, oui. Ça fait beaucoup de sport. Mm-hmm. Heureusement, pour certains, c'est férié.
Oui, oui, c'est ça, exactement. On peut en profiter, exactement.
Merci, Lucas. Et puis, Rachel, oui, bien sûr, on peut aller voir le spectacle dans le Vieux Hall, mais on pourrait aussi profiter du nouveau sentier culturel, la nouvelle version.
J'en ai fait un tout petit bout hier, là, entre les spectacles, mais c'est certain que je vais retourner faire le parcours parce qu'à chaque année, on le bonifie, on le modifie un peu. Et ce sentier culturel, donc, dans les rues du Vieux-Hall est maintenant disponible à l'année. Ça, c'est la nouveauté. On peut admirer les œuvres aussi jour et nuit. Il y a vraiment une expérience qui est faite pour être facilement accessible au moment où vous voulez aller visiter le sentier culturel. Et notre collègue Camille Bourdeau est allée à la rencontre de certains artistes et organisateurs lors du lancement là, dans les derniers jours. Vous pouvez en avoir un aperçu dans une vidéo qui vient d'être lancée sur notre site web. Et vraiment, quand vous voulez, suivez la ligne rouge sur les trottoirs du Vieux-Hall. Vous pouvez le faire par vous-même ou maintenant, il y a aussi des visites guidées. Donc, c'est possible également de vous y présenter pour vous faire expliquer un petit peu plus les œuvres.
Oui, ce superbe sentier culturel, une chouette idée. Mario, sur le Queensway?
Au ralenti, si on arrive depuis Canada vers le centre-ville, il y a deux segments aussi un peu plus denses là, entre Greenbank, Pinecrest et Woodruff. Reprise de vitesse, puis ça ralentit un peu là, entre Maitland et Parkdale. Mais il y a aussi en sens inverse où c'est plus dense et plus lent, soit entre la 174 et la sortie Avenue Mann, rue Nicolas. Depuis Clarence Rockland, sur la 17, là, jusqu'à la 174, en passant par Orléans, jusqu'à la jonction avec le Queensway, c'est très bien. Riverside, direction sud-ouest, là, vraiment plus dense à l'approche de la zone de travaux, depuis avant Pleasant Park jusqu'à Bank. Rappelle qu'il y a un segment de la 401 à la hauteur de Cornwall qui est fermé en direction est seulement. Là. Alors, un détour à prévoir pour une durée indéterminée à la suite d'une collision. À Gatineau, les voies les plus empruntées le matin sont vraiment faciles, là, c'est ce que je constate. Ensoleillé, devenant alternance soleil-nuage en après-midi, vent assez actif, maximum 26 degrés, humidex 29 au thermomètre, 17 degrés.
Au matin d'ici, c'est la revue des Lève-Tard avec Anne-Sophie Gagné.
8h41, Anne-Sophie, on continue d'apprendre des détails sur cette fusillade qui a eu lieu à Montréal.
C'est encore tout un choc, Mélanie, dans la communauté de Côte-des-Neiges, entre autres, aujourd'hui, mais aussi dans la population, hein, alors que l'enquête là, est transportée en Alberta, dans la ville d'origine du tireur, un homme de 25 ans dont on a eu un peu plus de détails sur son identité aujourd'hui, lui qui a laissé là un volumineux manifeste misogyne, violent, dont je vous épargne les détails. Et je vous rappelle en fait qu'il a fait deux victimes, un policier de 34 ans, un père de famille de 68 ans aussi qui ont été tués par balle, tandis que le suspect justement, là, il a été abattu. Et bon, si la blessure est vive pour les proches des deux victimes, le drame pourrait aussi laisser des cicatrices là, chez les citoyens touchés, les témoins, la population. C'est ce qu'on peut lire sur le site de Radio-Canada. C'est le cas entre autres des clients de l'épicerie PA, justement dans le quartier de Côte-des-Neiges, qui ont dû se barricader, se coucher par terre alors que la violence éclatait là, juste à l'extérieur de l'immeuble. Il y a justement une psychologue spécialisée en stress post-traumatique qui parle dans cet article de Radio-Canada qui ajoute que les nombreuses vidéos aussi hein, qui ont circulé sur les réseaux sociaux là, dans laquelle on peut justement voir la mort du policier et du citoyen, eh bien ça ajoute au deuil des proches, ça ajoute aussi au traumatisme collectif, aux gens qui ont vu circuler justement ces vidéos-là. Et comme quoi, il est important de ne pas le minimiser, ce traumatisme, de se diriger vers des ressources appropriées. Et justement, Santé Québec invite les citoyens qui en ressentent le besoin à contacter le 811 option 2. Ça, c'est pour obtenir de l'aide en lien avec la fusillade justement du 22 juin. Mais je termine quand même avec l'histoire d'un héros dans toute cette histoire dont il est question à la une de la Presse Plus aujourd'hui. Parce qu'on apprend que ça a repris seulement 3 secondes pour éviter un carnage. Et tout ça, c'est grâce à l'agent Xavier Gaumont de la police de Montréal. Lui, là, ce jeune policier avait quelques années en poste qui est sorti de sa cachette, qui a pris 2 grandes inspirations justement pour se stabiliser et qui a réussi à viser l'assaillant, à ouvrir le feu et ça à 20 mètres de distance. Une manœuvre difficile à faire et pourtant, il l'a fait. Il est célébré aujourd'hui en héros par ses collègues, par les proches des victimes, parce que les enquêteurs ont conclu justement que son intervention, celle des autres patrouilleurs, là, ont empêché le suspect d'entrer dans l'immeuble qu'il visait, l'immeuble de la maison mère du site de Pornhub, là où un drame justement bien pire aurait pu se produire. Donc, quand même, dossier dans la Presse Plus, c'est important aussi de souligner ces héros qui, malheureusement, contre eux, mais contribuent à peut-être éviter le pire.
inspire.
Oui, assurément. Et le Québec inspire bien au-delà de ses frontières.
Oui, en cette journée de fête nationale, la presse qui nous partage ce matin des exemples d'idées qui montrent comment justement le Québec inspire à l'international, comment des idées québécoises exportées font briller le Québec. Et je vais vous en donner quelques-unes. Bon, à commencer, là, peut-être que certains vont frissonner en entendant ces mots. Je parle du BIP test. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oh mon Dieu, en éducation physique, oui.
Et oui, là, je vous rappelle un peu le concept. Là. Il faut courir sur une distance d'une vingtaine de mètres, séparant deux lignes à une vitesse qui augmente graduellement à chaque palier. Mais est-ce que vous saviez que c'est une idée québécoise?
J'ai interviewé celui qui est derrière le fameux test BIP parce que je pense que c'était un anniversaire il y a un an ou deux. Alors oui, je savais que ça venait de chez nous. Puis pour le meilleur et pour le pire. C'est une super mesure de combien vous êtes en forme. Oui. C'est aussi un exercice éprouvant.
Oui, c'est ça. C'est créé justement par Luc Léger, là, il y a plus de 40 ans. Ce qui reste un test qui fait partie des plus utilisés à travers le monde pour évaluer la capacité cardio-respiratoire d'une personne. C'est un moyen quand même de prévenir les risques de maladies chroniques ou encore même de mort prématurée. Donc, comme quoi, ce n'est pas juste un test qu'on fait à l'école et qui nous tente plus ou moins. En tout cas, pour mon cas, c'était pas mon test préféré. Mais ça a permis quand même là, d'inspirer dans plusieurs pays européens, notamment aux États-Unis, en Australie. Donc, un test qui est utilisé un peu partout. Sinon, une autre idée québécoise dont on parle dans la presse, les CPE. Vous savez, ce service de garde à la petite enfance au prix modique de 5 $ par jour, qui est le projet d'ailleurs de Pauline Marois, qui a été mise en place au Québec en 1997. Et le résultat de tout ça, bien, les femmes retournent sur le marché du travail, sortent de la pauvreté. Et près de 30 ans plus tard, bien, c'est un modèle, entre autres, qui inspire le nouveau maire de New York, qui en inspire plusieurs autres.
Le reste du Canada, programme absolument, de Justin Trudeau et voilà. De Jack Meeting.
Exactement. Sinon, pour vous nommer une autre idée en terminant, le Bixi aussi qui a été transporté à travers le monde, des logiciels d'animation 3D, la féminisation des noms de métiers. C'est pour vous en nommer que quelques-uns comme quoi il y a de quoi être fier d'être Québécois pour ceux qui nous écoutent en tout cas en ce jour de fête nationale.
Merci pour ça, Anne-Sophie.
Vous avez manqué un moment de votre émission matinale préférée? Pas grave. Téléchargez l'appli Radio-Canada Audio et suivez-nous pour ne rien manquer.
8h47, nouveau rebondissement dans la vente du château Montebello, dis-je. La firme PricewaterhouseCoopers demande aux acheteurs potentiels de préciser leur plan pour l'administration de l'établissement. C'est une lettre du 19 juin dont la presse a obtenu copie. La décision de conserver ou non le groupe Fairmont à la gestion du célèbre complexe hôtelier va peser dans la sélection finale, sélection qui finalement va se faire au plus tard le 10 juillet à 17h. Et on en parle avec Nathalie Lévesque, professeure-chercheure en marketing à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Madame Lévesque, bonjour.
Bonjour.
Un des membres d'un groupe là, qui est intéressé par le rachat, Jean-Pierre Poulin, disait, il est à la tête du groupe DEFCOR, nous a déjà dit que lui souhaitait conserver Fairmont comme gestionnaire. Selon vous, est-ce que c'est plus avantageux de conserver Fairmont ou de s'en débarrasser?
Bon, écoutez, c'est une grande question ce matin. Je voudrais juste positionner initialement que ma lecture est vraiment du côté, c'est une lecture marketing. Donc, tu sais, je vais pas commenter la gestion des revenus ou des opérations. Là, je voudrais vraiment me centrer sur la valeur de la marque du château Montebello, puis qu'est-ce qu'elle représente là, avec l'association de Fairmont pour les consommateurs. Donc, la question, d'un point de vue marketing, il existe vraiment beaucoup d'arguments très forts en faveur du maintien de Fairmont.
Quels sont les principaux avantages?
En fait, écoutez, c'est que, vous savez, le château Montebello, c'est pas juste un bâtiment, un hôtel. Tu sais, c'est pour plusieurs consommateurs, puis ça, c'est dans n'importe quelle situation en tourisme, le risque perçu est vraiment très fort dans, il pèse très fort dans le choix. Si un voyageur achète plusieurs mois à l'avance, tu sais, il va être rassuré, par exemple, par les standards connus, le programme de fidélité, les expériences cohérentes de Fairmont. Fairmont va jouer ce rôle de garantie. Parce que, je voudrais rajouter que les touristes, ils achètent pas une chambre, ils achètent une expérience, une réputation une promesse de qualité. Donc ça, Fairmont apporte vraiment cette notoriété internationale-là qui est déjà bien établie.
Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait imaginer, que la bannière Fairmont a aussi besoin du château Montebello dans son portefeuille?
Bon, écoutez, c'est pas... c'est un groupe tellement bien établi que je pense pas que ce soit l'hôtel au Québec qui fasse la différence. Cependant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas opposer systématiquement identité québécoise et performance marketing. Parce qu'un groupe local, c'est vrai que pour avoir une vision ambitieuse puis développer une marque distinctive autour du château Montebello, tu sais. Donc moi, je ferai pas une opposition, mais ce que je me suis penchée plutôt ce matin, c'était de regarder pourquoi le groupe PwC, qu'est-ce qu'il cherche à évaluer?
Mm-hmm.
Donc, pour moi, l'enjeu, c'est pas seulement le changement de gestionnaire, mais c'est surtout, est-ce qu'on peut conserver la valeur de la marque accumulée depuis des décennies tout en améliorant le produit puis l'expérience? T'sais, je pense que c'est plus ça qu'ils vont chercher à évaluer parce que, écoutez... on essaie de minimiser les risques associés à une transaction. Ça, c'est évident. Puis, si on conserve Fairmont, ça représente une forme de continuité, pas seulement pour les clients, hein. Les employés, les partenaires, même le tribunal, donc il y en a question dans les articles. Puis, souvent, ben, la continuité, c'est perçu comme moins risqué qu'une rupture complète. Mais, comme je vous ai dit, il y a toujours, tu sais, un changement, ça pourrait être aussi bénéfique si le nouvel acquéreur est capable de préserver la valeur de la marque, tout en proposant, tu sais, une vision encore plus forte pour le château Montebello. Je crois que c'est possible de le faire sans le Fairmont. C'est juste qu'il faut évaluer les possibilités, ben, les risques, les menaces là, de quitter ce groupe-là. Le nouveau gestionnaire va devoir reconstruire une partie de cet écosystème, c'est certain.
Oui, et j'entends bien la notion de risque en la matière. Évidemment, le 10 juillet, on aura la réponse et on verra pour la suite des choses. Nathalie Lévesque, merci d'avoir été là ce matin.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Nathalie Lévesque, professeure-chercheure en marketing à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, qui nous parlait justement de la valeur de la marque, à la fois du château Montebello, mais la valeur de la marque aussi, Fairmont. Et puis, tel que promis, on vous le disait, il y a un an, jour pour jour, nous quittait Serge Fiori un 24 juin, lui et le répertoire qu'il a créé. En solo, oui, on n'en parle pas souvent, avec Fiori et Séguin, mais aussi avec Harmonium, on ne peut plus marquer la chanson, on pourrait dire québécoise, mais je pourrais dire plus largement d'expression française. Et donc, j'y vais d'un petit quiz, puis en même temps, un beau prétexte pour surtout entendre beaucoup, beaucoup de musique. Je commencerai par quel est le titre de cette chanson? Je vous le dis d'avance. Si vous ne connaissez pas Harmonium, là, je fais votre éducation. C'est des longues chansons. C'est du rock progressif. Ça fait que des fois, le début de la chanson ne ressemble pas à la fin de la chanson. Alors, je commence par celle-ci.
J'ai pensé à toi il y a longtemps déjà qu'on n'a pas fêté ensemble. Je suis toujours le même. On n'a pas changé. J'ai pensé à toi depuis un moment. Je me sens...
Mario? Est-ce que vous connaissez le titre exact de cette chanson? Pourtant, si je vous demande de fredonner les bouts, vous êtes probablement capable.
Pas pire.
Anne-Sophie, est-ce que vous la connaissez, celle-là, de Harmonium?
Elle me vient à l'oreille, là, vous me dites ça comme ça, mais là, pour vous donner...
Puis moi, là, je suis tellement contente ce matin d'avoir les réponses. Rachel, mais vous qui nous faites souffrir.
Mais je peux vous la chanter, là, je la fredonnais, mais le titre, c'est pas... Est-ce que c'est sur Si on avait besoin d'une cinquième saison, ça, là?
Non, qui est le deuxième album, c'est sur le premier.
OK, je l'aurais pas eu, là, j'aurais joué dans le printemps ou quelque chose comme ça.
Avançons, monsieur le technicien, à la fin de la chanson.
Ah, sans raison.
Et quand on a la réponse, ça devient tellement simple.
Ben oui, effectivement. Mais c'est vrai que souvent aussi, les titres d'Harmonium, c'était pas nécessairement évident parce que la partie qu'on connaît tous par cœur n'est pas nécessairement le titre de la chanson, sauf pour un instant.
Là, vous avez tellement raison. Et là, quel est le titre, et il est important, le titre de cette chanson? Ça allait mal, chanson-ci.
L'encre s'est mise à couler dans ma tête et sur un vieux papier. Il m'a dit de vous dire qu'il n'y a plus rien à dire. Il m'a dit de vous dire.
Et cette chanson-là, est-ce que vous avez un titre? Je vous dis d'avance, moi, j'aurais de la misère.
J'essaie de la chanter plus vite, mais là, comme je l'entends en même temps, ça fonctionne pas.
Il m'a dit de vous dire que je ne sais pas, Mélanie. Et là, donc, rappelez-vous, la première pochette d'Harmonium, fond jaune-beige, là, qui tire un peu sur l'orange avec lettrage brun. Puis il y a cette espèce de personnage. Et là, dans cette chanson-ci, on dit l'homme musicien, etc., et qui m'a dit de vous dire. Et donc, ce personnage s'appelait l'harmonium, parce que instrument de musique autour du personnage. Le groupe n'avait pas du tout envie de se faire appeler harmonium, mais tout le monde a fini par dire « ouais, ouais, comme... » Et quand on pose la question aux membres d'harmonium, ceux qui sont vivants, disaient « ben, à un moment donné, le nom est resté. » Et c'est comme ça qu'on a obtenu harmonium. Mais si vous regardez le personnage, auquel je n'avais pas vraiment fait attention avant de lire l'information, c'est vrai, il y a une espèce d'homme orchestre qu'on peut voir sur le dessus.
Parmi
tant d'autres.
Mais
oui.
C'est quand même iconique, finalement.
Complètement.
Comme nom. Donc, moi, j'adore.
Moi aussi. Puis, je trouve que, tu sais, l'idée des harmonies en musique, c'est toujours une bonne idée. Connexion Outaouais, notre collègue Christelle, qui est en congé de maternité, avait interviewé Michel Normandeau, qui habite en Outaouais depuis une trentaine d'années, qui était des trois membres fondateurs. En fait, lui était coloc avec Claude Meunier. Pouvez-vous croire?
Ah, quand même.
Puis Claude Meunier, à un moment donné, s'en va.
C'est un
va.
Petit monde. Hein?
Bien, un petit monde. Ça n'est pas où on habite, évidemment. À cette époque-là, Michel Normandeau habite à Montréal. Puis là, bien, Claude Meunier s'en va, se cherche un coloc, tombe sur un certain Serge Fiori et ça a donné, évidemment, le résultat qu'on connaît. Je continue avec mes questions. Il y a une chanson dans laquelle les paroles vont comme suit. « Des inconnus vivent en roi chez moi. » Pour qui avait moi qui avais accepté leur
mais
loi.
Là, ça c'est pour un instant.
Pour un instant j'ai respiré très fort. Ça m'a permis de visiter mon corps. Des inconnus vivent en roi chez moi.
Évidemment, il dit les anglophones qui faisaient leur loi. On peut penser à un Québec des années 70 avec l'émancipation, la révolution tranquille. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous lire, Rachel, l'an passé, au moment du décès de Serge Fiori sur le site d'ONFR, comment des Marcel Aymard, par exemple, dans le groupe Canot, disaient ça contribuait à tout un sentiment pour les francophones, même hors Québec. Et ce n'était pas nécessairement la position séparatiste, indépendantiste de Serge Fiori qui nous plaisait. Il y avait quelque chose d'universel dans cette chanson. Je vous propose qu'on se laisse en ce 24 juin. Ce qui n'avait pas pu se faire sur les plaines d'Abraham l'an passé, c'est ces musiciens de 11 nations autochtones, les 11 nations présentes au Québec, qui ont repris Serge Fiori, et ça donne ceci. Bonne Saint-Jean-Baptiste, que vous soyez au Québec ou partout où vous pouvez nous écouter, francophones, considérez-vous, saluez.
Pas les magues d'Andotona.